Les pieds sur terre, Sonia Grönlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Faut-il ou non sortir du nucléaire? Et si oui, à quelle échéance? Que faire des vieilles centrales? Faut-il en construire de nouvelles? Le sujet divise les candidats à l'élection présidentielle et recoupe de nombreux enjeux de la campagne. Il s'agit d'énergie, donc de pouvoir d'achat, puisque les prix de l'électricité et du gaz ont flambé. Il s'agit d'écologie, du bilan carbone, de santé publique, de sécurité et de gestion territoriale. Comme on peut s'y attendre, l'extrême droite et la droite sont à fond. Macron a d'ailleurs annoncé en novembre la construction de nouveaux réacteurs visant l'indépendance énergétique de la France et la neutralité carbone en 2050. Mélenchon est pour la sortie entre 2030 et 2045, Jadot vent debout dans les mêmes délais. Le candidat communiste, lui, est favorable au maintien du nucléaire au nom du bilan carbone, notamment. Hidalgo est un peu en même temps pour la sortie, mais sachant qu'elle sera longue. L'opinion, elle, a ses contradictions. Selon l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, 53% des Français considèrent que cette énergie a été une bonne chose pour la France, mais ils seraient 45% à s'opposer à la construction de nouvelles centrales. L'une d'entre elles a 40 ans et concentre un maximum d'inquiétudes. Elle se trouve en Ardèche, sur la route des vacances à Tricastin. Aujourd'hui, deux opposants, l'un de l'intérieur et l'autre militant, racontent comment l'opinion est en train de changer quand un procureur et un ingénieur se rebellent, par Clément Baudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Samuel, j'ai une trentaine d'années et je travaille dans le domaine de la culture. Depuis mes 17 ans, je suis bénévole et militant chez Greenpeace. L'action directe non violente, moi, c'est un moyen que j'ai choisi assez vite, en fait, dans ma vie. Parce que c'est, je crois, un des meilleurs moyens de pouvoir défendre l'environnement. La question nucléaire, chez moi, c'est venu du fait que j'avais grandi à Narbonne, sans le savoir, juste à côté de la plus grosse usine de conversion d'uranium en Europe, à 2,5 km du centre-ville de Narbonne. L'usine Orano, Malvésie, traite environ un quart de l'uranium mondial pour en faire du combustible nucléaire in fine. C'est le premier maillon de la chaîne du combustible nucléaire à Narbonne. Et je me suis rendu compte de tout le désastre que c'était cette industrie de A à Z, une industrie parmi les plus dangereuses. Les centrales nucléaires ont été conçues à la base pour tenir 40 ans. Et là, en 2020, on y arrivait. Les centrales qui avaient été construites dans les années 80 arrivaient à péremption. Et donc, on s'était dit, on va agir sur une de ces centrales. On va aller dénoncer le fait que là, maintenant, il faut démanteler, quoi. On a choisi Tricastin. Notamment parce que, la liste des incidents et des accidents à Tricastin, sont de notoriété publique. Mais d'autant plus parce que le réacteur numéro 1, en l'occurrence de la centrale de Tricastin, était vraiment un des plus abîmés du parc français. Et donc, un matin de février 2020, on débarque sur Tricastin. Notre idée, c'était de dire, si vous voulez pas la démanteler, nous, on va le faire. Voilà, alors on a choisi de prendre ça sous le ton de l'humour. On était une grosse vingtaine, sapés avec des salopettes marquées Tricasto, numéro 1 du démantèlement, et des t-shirts jaunes. On a pris des gros marteaux en carton, comme ça, beaucoup trop gros pour nous. Et puis, on a débarqué sur le site. On est rentré dans l'usine comme des travailleurs sur une zone de chantier. Mais sauf qu'on avait avec nous une mini-pelle et un mini-bulldozer. Et moi, je m'étais dit, mais jamais ça va passer. On va jamais pouvoir rentrer dans une centrale nucléaire avec un bulldozer. Oh, les gars! Si, on y est arrivé. On a envahi la centrale sur trois endroits différents. Donc nous, on est une dizaine de personnes là, sur ce coin-là de la centrale, le coin sud, et on progresse tranquillement en groupe, comme ça, avec nos gros marteaux, nos combinaisons à moitié ridicules, il faut bien le dire, et on progresse comme ça derrière notre bulldozer. Et on se dit, on progresse jusqu'à ce qu'on nous arrête. Et pendant 5 minutes, on marche. On prend le temps, on salue, il y a quelques travailleurs qui sont dehors, qui comprennent pas trop ce qu'on fout là, mais ça bouge pas trop. Personne ne nous dit rien, si ce n'est qu'à un moment donné, on arrive devant le portail qui mène au réacteur. Et donc il y a un militaire qui voit absolument halluciné 10 personnes avec un bulldozer en train de marcher vers lui. C'est là qu'il nous met en joue. Et forcément, bah, nous, quand on nous met en joue, bon, bah, on se met par terre, on lève les mains, on arrête la progression, et paf, l'histoire, elle est finie. Et puis, au bout d'une demi-heure, on nous menotte, on nous fouille, on nous amène dans une salle de la centrale, dans laquelle on nous met là la grosse vingtaine de personnes qu'on était. Voilà, en attendant que les officiers de police judiciaire de la gendarmerie viennent nous chercher un par un pour nous emmener en garde à vue. Après une trentaine d'heures, on est libérés. On nous dit qu'en effet, il y aura poursuite de la part de l'exploitant, donc EDF, et qu'on sera convoqué devant le tribunal pour un procès quelques mois après. Moi, c'était pas ma première action sur une centrale nucléaire. J'avais fait quelques années auparavant une action sur une autre centrale qui m'avait valu une condamnation à 3 mois de prison avec sursis. Et là, du coup, j'étais en violation de sursis. Je risque de la prison ferme. Donc bon, je suis droit dans mes bottes, je sais pourquoi je l'ai fait, mais en même temps, je flippe un peu, quoi. Le procès a été repoussé à cause du Covid 2 fois. En plus, une des raisons pour lesquelles je flippais pendant tous ces reports de procès, ce contrôle judiciaire qui se maintenait, etc., pendant tout ce temps d'attente, en fait, où on ne savait pas à quelle sauce on allait être bouffé, c'est qu'on voyait bien que la justice se durcissait à l'endroit des militants écologistes et des lanceurs d'alerte, quoi. Les dernières peines de prison qu'il y avait eu pour les camarades sur d'autres intrusions de centrales, c'était du coup en première instance, on avait eu un jugement de prison ferme. Il y avait eu des peines d'amende demandées absolument mirobolantes. Enfin, où je me disais, là, on va être bon pour du ferme, quoi. On y va. Ce durcissement de la justice qui s'aligne sur les desiderata de l'industriel, pour nous, c'était vraiment très très inquiétant. Et le tribunal de Valence, in fine, a rendu son verdict en septembre 2021. La condamnation, c'est 300 euros d'amende par personne. Ça a été une surprise et un incroyable soulagement, quoi. Donc je me souviens très bien du moment où j'ai compris que le procès allait tourner, pas comme d'habitude, pas à la faveur d'EDF. Ouais, je m'en souviens très bien parce que j'ai pas pu m'empêcher de verser une larme, quoi. C'est quand le procureur a commencé son réquisitoire en disant... Qu'il rappelait que le nucléaire, c'était Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima. Déjà, quand un procureur de la République il commence en disant ça, et quand il a enchaîné en disant que EDF n'avait pas besoin de Greenpeace pour détériorer son image au vu de tous les scandales sanitaires et environnementaux dont était responsable notamment la centrale du Tricastin, là, c'est à ce moment-là où j'ai regardé mes camarades dans les bancs... des accusés, et ça a été à la fois une espèce de joie incompréhensible et comme si pour la première fois on était entendu, comme si pour la première fois il y avait un appareil de justice qui nous entendait. L'action directe non violente, pour moi, elle a tout à fait son sens à continuer, et il faut la continuer pour que les gens qui consomment de l'électricité chaque jour puissent savoir d'où ça vient, comment c'est fait et quels risques on prend au nom de cette électricité. On ne peut plus juste appuyer sur un interrupteur impunément sans se demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, derrière un interrupteur, il y a un réacteur numéro 1 de Tricastin qui est tout à fait fissuré. Il y a le Kazakhstan avec ses fournisseurs d'uranium pour nos centrales nucléaires. Il y a les travailleurs du Niger dans les mines d'Arlit qui sont tous avec des leucémies à cause de l'uranium. Il y a la Hague en Normandie qui pollue énormément. Il y a la question du retraitement des déchets qui est au point zéro. On ne sait pas quoi en foutre de ces déchets. Donc il y a Bure, cette espèce de plan complètement fou d'enfouir les déchets à Bure. Il y a tout ça. Une centrale nucléaire, c'est pas juste un truc pas beau sur l'autoroute des vacances, quoi. Et ça, il faut que tout le monde en soit conscient pour qu'ensuite on puisse en parler. Est-ce qu'on est sûr que c'est ça qu'on veut ? Posons-nous cette question, mais pour se la poser, il faut être informé. Et pour être informé, eh ben, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte.
France Culture, les pieds sur terre.
Le 13 novembre 2021, la centrale de Tricastin, la plus ancienne du parc nucléaire français, fait encore parler d'elle. Pour la première fois, un ancien cadre dirigeant de la centrale prend la parole. Son témoignage est publié dans un article de Stéphane Mandard et Perrine Moutèdre dans le journal Le Monde. Nous l'appellerons Hugo, il souhaite garder l'anonymat.
Moi j'aime bien me définir comme un amoureux et un passionné du nucléaire. La première fois que je suis rentré dans une centrale nucléaire, enfin j'étais comme un gamin, je me suis senti tout petit en fait. Voir comme à Tricastin par exemple, ces quatre immenses dômes de bâtiments réacteurs alignés les uns à côté des autres, enfin honnêtement j'en parle, j'en ai les poils qui se dressent en fait. C'était merveilleux, c'était juste merveilleux. Dès ma sortie d'école, enfin dans les débuts des années 2000, j'ai commencé à travailler au sein d'EDF. Et j'ai effectué donc l'ensemble de ma carrière au sein d'EDF et au sein de la division production nucléaire. Et j'ai très vite gravi les échelons au sein de la production nucléaire. J'ai été nommé en 2016 chef du service conduite de Tricastin. J'étais responsable donc de près de 400 personnes au sein de ce service. C'est celui qui comprend notamment l'ensemble des chefs d'exploitation, l'ensemble des équipes de car et l'ensemble des opérateurs qui pilotent les quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Tricastin. Oui, je me sentais privilégié finalement de pouvoir y travailler, pouvoir y contribuer de l'intérieur. Alors, même si dans les faits, au niveau de la loi, il n'y a pas de durée légale de vie des centrales nucléaires, ces dernières avaient été conçues pour une durée de 40 ans. Donc quand j'arrive en 2016 à la centrale nucléaire du Tricastin, son réacteur numéro 1 s'apprête deux à trois années plus tard à réaliser ce qu'on appelle la quatrième visite décennale, la visite de ses 40 ans. Le réacteur numéro 1 sera sur le parc, le premier réacteur dit de 900 MW électriques à pouvoir aller au-delà des 40 ans. C'est donc un enjeu qui est considérable pour la centrale nucléaire de Tricastin, mais pour l'ensemble du parc nucléaire français. C'est que le réacteur numéro 1 de la centrale du Tricastin allait ouvrir la voie à l'autorisation des 32 réacteurs 900 MW électriques du parc nucléaire français. Il est là l'enjeu. L'enjeu financier de cette affaire, il est considérable.
Un enjeu considérable, surtout qu'en France, chaque centrale est classée en fonction de ses résultats en matière de sécurité, d'environnement, de radioprotection. Et en 2016, quand Hugo est nommé à Tricastin, la centrale affiche de mauvais résultats. Elle est placée en 2017 en surveillance renforcée par l'autorité de sûreté nucléaire, l'autorité administrative chargée des contrôles.
En ma qualité de chef de service conduite de Tricastin, j'étais aussi membre de l'équipe de direction de la centrale. Je prends toute la mesure des responsabilités qui sont les miennes, et en priorité de porter la culture sûreté. Et la sûreté nucléaire n'est pas qu'une affaire de paramètres à ne pas dépasser, n'est pas qu'une affaire d'événements. La sûreté, c'est avant tout une affaire d'attitude. Il y a une vraie définition de la culture sûreté fournie par l'AIEA à l'issue de l'accident de Tchernobyl en 1986, et l'AIEA dit que la culture sûreté, c'est l'ensemble des caractéristiques et des attitudes qui, dans les organismes et chez les individus, font que les questions relatives à la sûreté bénéficient en priorité de l'attention qu'elles méritent en raison de leur importance. Ce qu'il faut retenir de cette définition de la culture sûreté, donc de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, ça veut dire qu'aucune autre considération autre que la sûreté ne peut prendre le pas dans l'exploitation des centrales nucléaires. C'est ça la culture sûreté.
Ce que souligne ici Hugo peut sembler technique, mais c'est très important pour bien comprendre la suite. L'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire en France, n'est pas présent en permanence dans les centrales nucléaires. Mais le principe de transparence oblige l'exploitant, EDF, à déclarer tout incident, et ce quelle que soit la gravité des incidents, à l'autorité de sûreté nucléaire. Ce principe de transparence est la pierre angulaire qui garantit la sûreté nucléaire au plus haut niveau.
Si l'exploitant n'indique pas à l'autorité de sûreté nucléaire les événements tels qu'ils se sont déroulés, il est difficile pour l'autorité de sûreté nucléaire d'en avoir connaissance. Alors, elle peut en découvrir parfois dans le cadre d'inspection, mais la déclaration d'événement en France est basée sur un principe de transparence de l'exploitant EDF vis-à-vis de l'autorité de sûreté nucléaire. Alors, j'ai toujours pensé naïvement que la boussole de chacune et chacun des salariés au sein d'une centrale nucléaire, c'était la sûreté totale et absolue, qu'aucun enjeu, quel qu'il soit, ne pouvait justifier que la sûreté ne soit pas la priorité. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc, lorsque j'arrive en 2016, le classement de la centrale au niveau de la sûreté n'est pas très bon. Et en termes d'environnement, les résultats environnement sont très mauvais et classent la centrale nucléaire de Tricastin parmi les plus mauvaises centrales du parc. Alors, je ressens clairement autour de moi beaucoup de tensions et de pressions, et dans tous les services, pour redresser absolument la barre en vue de la validation par l'autorité de sûreté nucléaire de cette visite décennale.
Dans ce contexte, au fil des mois, Hugo observe plusieurs dysfonctionnements des procédures, notamment en juin 2017.
Donc, par exemple, en juin 2017, on vit un événement important au sein de la centrale avec un réacteur dans un état de surpuissance pendant une durée de 45 minutes. Ce type d'événement est extrêmement rare sur le parc, pour ne pas dire qu'il ne se produit presque plus. Grosse inquiétude de la part de la direction de devoir déclarer ce type d'événement très rare et très important pour une centrale nucléaire. On parle de surpuissance d'un réacteur nucléaire. Lorsqu'on a une surpuissance du réacteur d'une durée supérieure à 6 minutes, on doit le déclarer dans les 48 heures à l'autorité de sûreté nucléaire. Dans ce cas précis, on a une surpuissance du réacteur, 45 minutes. Donc, tout naturellement, je m'adresse au directeur production. Alors, sa réaction ne se fait pas attendre. Il m'envoie un SMS qui dit « Il faut démonter ce qui s'est passé ce jour-là en mesurant sans prendre le C pour démontrer que moins de 6 minutes. » J'ai relu ce message à plusieurs fois avant de me rendre compte que, bah oui, que c'était de ça qu'il s'agissait. Dans ce SMS, le directeur production me demande sans ambiguïté de falsifier les données pour démonter, comme il le dit, cette analyse et démontrer que nous n'avons pas eu de surpuissance du réacteur pendant 45 minutes. Et c'était inimaginable. J'avais déjà observé des minimisations d'événements, des non-déclarations d'événements, mais la demande de la part du directeur production de falsifier des données pour ne pas déclarer un événement aussi important qu'une surpuissance d'un réacteur nucléaire, c'était la première fois. Tu dis, il n'y a que les Russes qui sont capables de faire ça, enfin, j'en sais rien. Enfin.
L'incident de surpuissance de 45 minutes est finalement déclaré à l'autorité de sûreté nucléaire le 2 août 2017, soit près d'un mois et demi après l'incident, alors que la procédure prévoit une déclaration sous 48 heures. Et d'après Hugo, cette tentative de minimisation et ces écarts avec les procédures n'est pas un cas isolé. C'est également le cas en août 2018.
Donc, on est le 29 août 2018. Il se passe un événement marquant, à savoir l'inondation de plusieurs locaux au sein du bâtiment réacteur numéro 3. Donc, je découvre cet événement le lendemain par le message du chef d'exploitation qui s'intitule « Inondation interne au sein de la tranche numéro 3 ». Donc, il parle d'une inondation interne dans plusieurs locaux des zones nucléaires. Il parle d'un niveau d'eau qui atteignait 10 cm dans certains locaux avec présence de matériel sensible au niveau sûreté. Il indique que 24 heures après sa découverte, cet aléa n'est toujours pas soldé. Et en termes de moyens mis en œuvre, il indique que les moyens humains et matériels ne sont pas adaptés. Il trouve la situation inacceptable. Il indique qu'il a demandé à deux agents de terrain d'utiliser des raclettes pour enlever le plus gros de l'eau. Il indique enfin qu'il ne disposait pas d'aspirateur et qu'il a dû emprunter un aspirateur à un prestataire pour pouvoir, là aussi, ramasser l'eau. Quand je lis ce mail, je suis dans un état, je suis atterré. Enfin, je suis choqué d'une telle situation. Le lendemain, donc le 31 août, une inspection prévue de longue date par l'autorité de sûreté nucléaire doit avoir lieu. La réunion démarre, les inspecteurs nous interrogent sur le déroulé de l'événement. Je m'apprête tout naturellement à prendre la parole pour expliquer la façon dont l'événement s'est déroulé sur la base du compte-rendu et du mail officiel du chef d'exploitation. À ce moment-là, le directeur m'interrompt, indique qu'il souhaite me parler à l'extérieur. Une fois à l'extérieur, il me dit « Il est hors de question que tu restes à cette réunion. Il est hors de question que tu expliques à l'ASN ce qui s'est réellement passé. » Donc, je suis tout simplement viré de cette réunion par le directeur production, qui est mon supérieur hiérarchique direct.
Après chaque inspection de l'autorité de sûreté nucléaire, un rapport est publié sur le site de l'institution. À la lecture de ce rapport, Hugo se rend compte que les faits qui ont été rapportés par la direction de la centrale ne correspondent pas vraiment à la réalité des faits.
On parle d'un écoulement d'eau immédiatement identifié et immédiatement arrêté après moins d'une heure et demie. Là où le mail du chef d'exploitation parlait d'une inondation, là où le chef d'exploitation nous indique que 24 heures après cette découverte, l'événement n'est toujours pas soldé, et on ne parle absolument pas du manque de moyens humains et matériels. Je pense notamment à deux techniciens qui ont dû nettoyer le plus gros de l'eau à la raclette. La comparaison de ces deux documents montre clairement une dissimulation de cet événement au niveau de sa gravité, au niveau de sa durée et au niveau des moyens humains et matériels existants. Donc moi, quand je découvre ce rapport, je suis effaré. Enfin, il n'y a même pas de mots, c'est extrêmement grave. Je suis conditionné depuis toutes ces années à la transparence en matière de sûreté nucléaire. Je suis conditionné à tout dire à l'ASN.
Cet écart entre la déclaration faite à l'ASN et la réalité des faits est révélé par Mediapart en 2019, vidéo à l'appui.
Alors, on a menti à l'autorité de sûreté nucléaire. Donc moi, comment je réagis à ce moment-là ? J'alerte ma direction, donc j'alerte la direction de la centrale. Elle ignore mes alertes. Je n'ai eu d'autre choix que d'alerter l'autorité de sûreté nucléaire. J'ai alerté la direction du parc nucléaire français. Non seulement je ne suis pas écouté, mais en plus je suis mis à l'écart. Donc devant ma mise en écart, je n'ai eu d'autre choix que de porter cette affaire devant les tribunaux. La plainte, c'était le seul moyen pour me faire entendre.
En octobre 2021, Hugo décide donc de porter plainte devant le tribunal judiciaire de Paris. Une plainte contre EDF et la direction de la centrale du Tricastin pour mise en danger de la vie d'autrui, infraction au code pénal, au code de l'environnement, au code du travail et à la réglementation relative aux installations nucléaires et harcèlement.
Depuis plus d'un an maintenant, je suis soutenu par The Signal Network, une organisation franco-américaine qui aide les lanceurs d'alerte. Je suis aussi soutenu par la Maison des lanceurs d'alerte. Donc oui, je suis soulagé d'avoir libéré la parole, mais aussi, enfin, je me suis retrouvé dans une situation de profonde solitude. Je suis toujours salarié d'EDF. Je suis dans l'attente d'une reprise de poste. On a souvent parlé du nucléaire comme un état dans l'état. On a souvent été étonné de constater qu'il n'existait pas jusqu'à aujourd'hui de témoignages d'exploitants du nucléaire sur ces questions. Bah, c'est tout simplement qu'il est impossible de parler. Le lobby est extrêmement fort. Maintenant, ce que j'en retiens, c'est qu'il est important de le faire.
Suite à la plainte d'Hugo, j'ai contacté l'autorité de sûreté nucléaire pour entendre leur version des faits. Mais impossible d'obtenir une interview à cause de la procédure judiciaire en cours. Contacté par courriel, EDF indique également ne pas pouvoir répondre à mes questions sur le sujet de vive voix, mais propose des éléments écrits. EDF assure, je cite, que la sûreté des centrales nucléaires est la priorité d'EDF. La transparence et le respect de la réglementation sont scrupuleusement appliqués et respectés sur tous les sites. Par ailleurs, dans un droit de réponse publié par le journal Le Monde, à la suite de l'interview d'Hugo, le groupe apporte un démenti formel à ces accusations et précise que la situation du salarié est bien connue du site de Tricastin et d'EDF. EDF précise qu'Hugo est en conflit ouvert avec son employeur et sa hiérarchie depuis plusieurs années et a été débouté des 4 actions intentées jusqu'ici auprès des instances judiciaires et administratives. EDF ajoute que les résultats de l'inspection réalisée en mars 2018 n'ont pas montré de défauts notables en termes de transparence du site et qu'en moyenne, la centrale du Tricastin déclare annuellement un nombre d'événements significatifs dans les standards des sites français.
Je ne suis pas dans une volonté de destruction de mon entreprise, de discréditer l'industrie du nucléaire. C'est pas pour ça que je le fais aujourd'hui. J'aimerais que ma démarche soit comprise pour ce qu'elle est. Une volonté de changer le système, d'améliorer les choses. Oui, je suis un passionné du nucléaire. Oui, je suis un partisan et un défenseur de l'utilisation de cette énergie, mais pas dans ces conditions. Clairement, aujourd'hui, si je fais tout ça, c'est pour éviter la survenue d'un accident grave en France. Et aujourd'hui, tous ces événements ont mis en lumière la nécessité, j'en suis convaincu, de disposer d'une filière indépendante de sûreté aussi compétente qu'elle l'est aujourd'hui, mais qui soit extérieure aux centrales nucléaires. C'est ça que je souhaite aujourd'hui.
En 2019, la 4e visite décennale du réacteur numéro 1 du Tricastin a été jugée assez satisfaisante par l'autorité de sûreté nucléaire. Le 13 janvier 2022, une enquête publique a été lancée sur le sujet pour récolter l'avis des citoyens. La décision de la prolongation de l'exploitation du réacteur numéro 1 de Tricastin devrait être validée officiellement par l'autorité de sûreté nucléaire courant 2022.
C'était Nucléaire, les lanceurs d'alerte de Tricastin, un reportage de Clément Baudet réalisé par Yael Mandelbeau. Merci à Samuel, Hugo, Magali, Perrine, Delphine et The Signals Network. C'est Jeanne Coppel, attachée de production des Pieds sur Terre, et Justine Calais, notre stagiaire.